Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Quelques réflexions concernant la résurrection ». Nous arrivons à l'étude numéro 7. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17, il est parlé que qu'en est-il de notre amour? Qu'en est-il de ton amour, toi qui écoutes maintenant? En grec, trois mots désignent l'amour, eros, philia et agapé. Eros renvoie à l'amour désir, philia à l'amour amitié et agapé à l'amour pur, relatif tant aux hommes que à Dieu. Ces trois formes d'amour sont liées. Or, il est nécessaire que l'agapé soit irrigué par le sang de l'éros afin de pouvoir transformer notre vie. La philia a besoin, elle aussi, de l'éros et de l'agapé en même temps, afin que l'ami se sente tout à fait accepté et aimé. Chacun aspire donc au plus profond de lui-même à être aimé et à aimer. Ce désir est souvent déçu. Nous connaissons la magie de l'amour. Nous savons qu'il peut briser nos défenses, même aussi qu'il peut s'accompagner de fragilité, de possessivité, de désir de toute puissance et d'angoisse en même temps de tout genre. Tout est possible dans l'amour. Donc l'apôtre Jean, il veut nous démontrer comment Jésus rend les hommes devenus étrangers à eux-mêmes à nouveau capable d'amour. C'est pourquoi il conclut les trois récits de résurrection par l'interrogation sur l'amour. Jésus pose à Simon-Pierre par trois fois la même question parce que celui qui va conduire la communauté doit tout particulièrement faire preuve d'amour. Cela doit nous aider à comprendre ce que est l'amour véritable et authentique. L'apôtre Pierre est question à trois reprises par Jésus, comme il avait renié celui-ci par trois fois. Il est donc questionné là-dessus, l'apôtre Pierre. Et quand nous parlons d'amour, il faut le faire en nous rappelant qu'en dépit de notre désir d'aimer, nous le trahissons souvent et que nous nous détournons souvent de lui. Et j'en étais de ceux-là aussi. Oui, on n'est pas fier de reconnaître cela. Il est donc inutile de gonfler la poitrine en proclamant qu'on aime Dieu et les hommes, car l'amour appelle la modestie et l'humilité. Plutôt que de se gargariser de mots, mieux vaudrait parler de façon mesurée de nos tentatives d'aimer vraiment, vraiment. Dans le texte grec de l'apôtre Jean, pour les deux premières questions, Jésus emploie le mot « agapé ». Il demande donc à l'apôtre Pierre s'il l'aime d'un amour libéré de l'ego, s'il l'aime libéré du désir de possession. L'apôtre Pierre répond par deux fois « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Il aime donc Jésus en ami d'un amour qui aime bien. En même temps, Sa réponse interpelle Jésus. Tu sais que je t'aime. L'apôtre Pierre veut lui dire, mais tu sens bien que je t'aime. Ce n'est pas seulement le fruit de mon imagination. Mon amour philia est réel. Et je sens bien chez toi le même sentiment. Dans la troisième question, Jésus emploie l'expression « phileis mi », « m'aimes-tu en ami ?» L'apôtre Pierre est peiné. Oui, il est peiné, se souvenant de sa trahison dans le passé. Peut-être l'apôtre Pierre est-il aussi troublé par le fait que Jésus semble remettre en question son amitié. Il n'a jamais osé affirmer qu'il aime Jésus d'un amour complètement désintéressé, agapé. Mais il n'a aucunement douté de ses sentiments d'amour et d'amitié pour Jésus. Jésus l'oblige donc à reconsidérer ses sentiments, à en éprouver la profondeur, à voir dans quelle mesure ils ne sont pas mêlés à d'autres motivations. N'est-ce pas particulièrement valorisant d'être l'ami de Jésus? L'apôtre Pierre n'en tire-t-il pas gloire? Est-ce vraiment de l'amitié de se réjouir de la présence de l'ami pour l'abandonner ensuite? Peut-être l'apôtre Pierre veut-il éclipser ses compagnons et se vanter d'être le meilleur ami de Jésus. À cette troisième question, l'apôtre Pierre répond, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, donc filio, c'est. » Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Oui, Pierre ouvre son cœur à Jésus. Il semble lui dire, « Seigneur, Seigneur, tu perces mon cœur à jour. Tu sais combien d'égoïsme, de calcul, de possessivité, de jalousie se mêlent à mon amour. Tu sais aussi que malgré tout, quelque chose de sincère perdure dans cet amour, que au plus profond de moi, je garde le désir de t'aimer d'amour absolument pur. Cher ami à l'écoute, passe, s'il te plaît, au crible l'amour que tu portes à ton ami, à ton amie, à ton conjoint, à tes enfants, tes collègues, et l'amour que tu portes à Dieu et au Christ. Ouvre ton cœur à Dieu afin qu'il l'examine et essaye de répondre à la question que Jésus a posée par trois fois à l'apôtre Pierre. Présente à Dieu tout ce qui dans ton amour est intéressé et impur, mais prends en compte aussi la part de pureté de ton amour, car toi aussi, tu es animé du désir d'aimer les hommes comme ils sont et Dieu de tout ton cœur. En effet, nous devons aimer les autres comme ils sont, et ce n'est pas toujours facile. Et nous devons surtout aimer Dieu de tout notre cœur. Aussi éloigné sois-tu de l'amour pur, sache que persiste en toi au moins la nostalgie de cet amour qui rend ta vie digne d'être vécue. Fais donc confiance à cette nostalgie, à ton amour, et tu vivras la résurrection. Alléluia. Après la triple question concernant l'amour, l'apôtre Jean rapporte un étrange dialogue entre l'apôtre Pierre et Jésus. En contrepartie de son amour, Jésus attribue à l'apôtre Pierre un destin semblable au sien. Attention, pour ceux qui connaissent comment Pierre a fini, cet apôtre bien-aimé, sincère absolument, c'est terrible. Et par amour pour Jésus, l'apôtre Pierre devra mourir et s'abandonner aveuglément à Dieu. L'apôtre Pierre est prêt à mourir pour Jésus et à être crucifié comme lui. Par cet appel, « Suis-moi » Saint Jean chapitre 21 verset 19 « Suis-moi » Jésus l'exhorte à le suivre jusque dans la mort. L'apôtre Pierre dit oui, il dit oui à la mort violente, car croyez-moi, c'était terrible. Pourtant, lorsqu'il voit le disciple que Jésus aimait suivre le Seigneur, eh bien, il voudrait connaître le sort qui lui est réservé à celui-ci. Jésus repousse de manière abrupte son interrogation. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Saint Jean chapitre 21 verset 22. Car le chemin de chacun reste un mystère, surtout pour nous. Pierre n'a pas à connaître le destin d'un autre. Il n'a pas à suivre Jésus uniquement parce que tous le font, mais parce qu'il aime Jésus lui-même profondément. L'amour ne compare pas jamais. Il ne table pas sur le comportement des autres. L'amour est sans pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela ? La résurrection ne signifie pas que nous allions libres et droits là où nous voulons nous. Elle suppose que nous acceptions de nous laisser conduire par Dieu là où nous ne voulons pas forcément aller. La foi en la résurrection nous libère de notre attachement obstiné à la vie et au chemin que nous voulons emprunter, nous. L'amour que l'apôtre Pierre reconnaît pour Jésus le conduit à suivre celui-ci où qu'il aille. Ce qui importe, c'est d'être auprès de l'aimé dans la vie comme dans la mort, dans la joie comme dans la peine, dans la liberté comme dans les chaînes. Il reste encore à l'apôtre Pierre à apprendre cet amour-là. Je peux comprendre que l'apôtre Pierre se compare à Jean, le disciple que Jésus aimait. Nous voulons bien suivre Jésus, mais nous voulons le suivre à certaines conditions. Nous le faisons, par exemple, uniquement pour faire comme ceux que nous aimons. De la même façon, je poursuis ma quête spirituelle pour imiter ce frère qui médite chaque jour. Ou encore, je participe à la vie associative parce que mon ami le fait, alors que ma seule volonté m'en éloignait. Jésus exhorte chacun de nous, comme l'apôtre Pierre, à suivre son propre chemin, sans imiter les autres. L'amour que je donne ne s'adresse que à l'aimé. Il ne doit pas s'embarrasser de comparaison avec les autres. cher ami à l'écoute. Pose-toi, toi aussi, cette question. Que t'importe? Regarde-toi de comparer avec les autres quand tu as le sentiment d'être lésé ou d'être privilégié. Combien de fois te laisses-tu aller à penser aux autres, à t'interroger sur leur destin? Que t'importe? Ravale donc tes pensées et va simplement ton chemin. La question de Jésus te servira et te dévoilera le mystère de la vie. Si tu t'interdis la comparaison avec les autres, tu seras en accord avec toi-même et tu accepteras ton chemin. Ce n'est que ainsi que tu seras capable de te concentrer sur tes pas, et chaque pas te conduira vers la vie et l'amour. Empruntant ton propre chemin, tu deviendras toi-même et ainsi tu témoigneras de la présence de Dieu sur cette terre. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, raconte comment l'apôtre Pierre témoigne vis-à-vis des êtres humains de l'amour révélé par Jésus-Christ. C'est une histoire de résurrection. L'apôtre Pierre jette donc par-dessus bord sa façon d'observer la loi juive et, le cœur ouvert, annonce aux païens la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Chez l'évangéliste Jean, Jésus lui-même introduit l'apôtre Pierre à sa mission de guide de la communauté. L'apôtre Pierre ne peut conduire l'Église que s'il aime vraiment Jésus. Saint Luc rapporte comment Dieu envoie un ange à l'apôtre Pierre et lui révèle dans une extase comment vivre concrètement cet amour, en le révélant surtout aux autres hommes. Et quand il est parlé d'hommes dans la Bible, vous avez compris, les femmes sont incluses, sont donc comprises. Alors j'ajoute, encore une fois, Dieu envoie un ange à l'apôtre Pierre et lui révèle dans une extase comment vivre concrètement cet amour en le révélant aux autres femmes. Il ne doit cacher à personne la nouvelle de la résurrection et ne doit refuser à personne le baptême. L'ange exhorte l'apôtre Pierre à l'amour et qui plus est, le rend capable de cet amour. C'est donc par une vision qui lui ouvre le cœur. Dans le rêve, l'apôtre Pierre voit son étroitesse d'esprit voler en éclats et laisser place à une nouvelle façon de penser. Dieu envoie à Corneille un pieux centurion romain, un ange qui lui donne pour mission d'envoyer quelques hommes à Joppé chez un certain Simon. Le lendemain, l'apôtre Pierre, en prière, voilà qu'il voit le ciel s'ouvrir devant lui. Une voix s'adresse à Pierre. « Allons Pierre, immole et mange. » Actes chapitre 10, verset 13. Pierre refuse, mais la loi lui dit alors, « Est-ce que tu devrais savoir ce que tu as purifié, toi, ne le dis pas souillé ?» Actes chapitre 10, verset 15. Il y a des missionnaires qui sont parfois invités dans des endroits très, très pauvres, extrêmement pauvres, à manger parfois des choses que on voudrait bien pas devoir avaler, mais ils le font par amour. N'ont-ils pas prié avant pour que le repas soit béni? Et le Seigneur est capable, Dieu est capable d'enlever les impuretés que ça pourrait donner au corps. Tandis que Pierre s'interroge au sujet de cette vision, des hommes arrivent et le demandent. L'apôtre Pierre les accompagne chez Corneille. Il tient devant les proches de celui-ci un discours dans lequel il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ d'une façon compréhensible aussi bien par les Grecs et les Romains. Il leur parle de Jésus comme de quelqu'un qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Jésus a fait le bien et il a pourtant été tué. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. Actes chapitre 10, verset 40. Alors que l'apôtre Pierre parle, l'Esprit Saint descend sur l'assemblée. C'est pour les Juifs un miracle incroyable que l'Esprit soit répandu aussi sur des païens. L'apôtre Pierre donne l'ordre de baptiser tous ces gens au nom de Jésus-Christ, expliquant « Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint aussi bien que nous ?» Actes chapitre 10, verset 47. Pour l'évangéliste, le disciple Luc, la résurrection se produit quand des hommes à l'esprit étroit voient, tout à coup, leur cœur s'ouvrir et offrant la grâce de Dieu à tous. L'apôtre Pierre n'aurait jamais quitté de lui-même le cadre étroit de sa foi. Dieu l'a conduit par son ange et dans une vision à ouvrir son cœur. C'est par l'intermédiaire de rêves, de visions, dans la rencontre avec l'ange, que nous pouvons nous aussi faire l'expérience de la résurrection. De nouveaux comportements, de nouveaux choix s'éveillent en nous, notre cœur s'ouvre. Peut-être te rappelles-tu les rêves qui t'ont ouvert l'esprit et rendu capable de nouveaux comportements. Tu pouvais tout à coup aller à la rencontre de quelqu'un que jusqu'alors tu voulais surtout ignorer. Tu pouvais entreprendre quelque chose que tu avais toujours évité. Quand as-tu dans ta vie éprouvé la résurrection? Quand t'es-tu, cher ami, défait de ton étroitesse d'esprit? Quand t'es-tu débarrassé de tes blocages? Quand t'es-tu accommodé de tes passions sans angoisse? Quand as-tu abandonné tes anciennes habitudes de pensée? Compte davantage sur Dieu pour qu'il t'envoie son ange, que ton cœur s'ouvre et que l'amour qui en sortira se répande sur tout ce qui t'entoure. Tu peux, en inspirant, laisser l'amour de Dieu inonder ton cœur et imaginer comment tout autour de toi est baigné par l'amour divin. Je dois juste vous dire, en toute sincérité, que il y a encore une demi-heure, je ne pensais pas de pouvoir parler audiblement. Je ne le croyais même pas. Je doutais et j'en ai honte. J'ai prié et malgré mes doutes, malgré ma désobéissance en quelque sorte, l'amour de Jésus est tellement énorme qu'il a permis que ma voix soit claire et audible. Je lui ai demandé que le Saint-Esprit s'empare de ma bouche, car, comme je viens de le dire, il me semblait que j'en étais incapable. Dieu peut tout. L'impossible peut devenir possible. Vous pouvez lui demander, comme moi, à 89 ans, que peut-être vous avez de la peine dans certaines choses, comme moi, pour marcher à cause que le canal Lambert est trop étroit, à cause que mon squelette s'est diminué de 2-3 centimètres, et cela fait très très mal. Mais vous savez, toutes les douleurs ne peuvent pas toujours être irradiées en claquant des doigts. Ce n'est pas parce que je pourrais sauter comme un cabri que j'irai au ciel. Il vaudrait peut-être mieux de ne pas pouvoir sauter comme un cabri et entrer par la porte étroite un jour. Pour moi, ça sera très bientôt. J'espère que vous avez compris. Jésus a souffert. Et ses disciples, croyez-vous qu'ils n'ont pas souffert? Certains, d'une façon atroce, inhumaine. Eh bien, ils n'ont pas renoncé. Ils ont tenu le coup jusqu'au bout. Ils ont été fidèles jusqu'au bout. Pourquoi pourrions-nous pas suivre cet exemple? Je ne dis pas que Jésus ne guérit pas. Il m'a guéri de multiples fois, parfois même que j'étais entre la vie et la mort. Bien sûr, vous pourrez trouver sur internet www.bibleexplique.ch au moins 200 CD que j'ai fait sur la guérison miraculeuse. Mais, encore une fois, j'en ai vu dans des hôpitaux qui étaient mourants par des souffrances horribles que même l'opium, je crois, ne faisait plus d'effet. Et ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Chers amis, pendant cette 6e semaine du temps pascal, vous savez qu'on fête l'ascension du Christ. Les textes des évangiles lus durant cette période sont tirés des récits d'adieu. Jésus y console ses disciples, leur disant qu'il ne les abandonnera pas après sa mort. Quand il montera, au ciel, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. » Saint Jean 14, verset 18. Jésus n'est certes pas auprès de nous comme il le fut auprès des disciples qui pouvaient même le voir et le toucher, qui pouvaient l'entendre, mais il nous faut les yeux de la foi pour reconnaître sa présence auprès de nous et en nous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, dit Jésus. Mais vous verrez que je vis et vous aussi vous vivrez. Et ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Saint Jean chapitre 14 verset 19 à 20. Le monde aveugle ne voit pas le ressuscité, évidemment. Mais le croyant, pourtant, le croyant, il peut voir Jésus. Il le reconnaît à ce qu'il vit. Ce critère, à mon sens, détermine la véritable rencontre avec Dieu. Quand la vie s'épanouit en moi, je vois le ressuscité et j'éprouve la présence de Dieu. Dans la vitalité qui jaillit et éclot de ce qui est pétrifié, nous reconnaissons le ressuscité. Dans la vie qui en nous aussi est victorieuse de la mort, nous reconnaissons que le Christ est dans le Père et nous en lui et lui en nous. C'est le message de consolation que Jésus nous a laissé avant son départ. Il ne marche plus à nos côtés, mais il est en nous par l'Esprit Saint et nous en lui. L'ascension crée une proximité nouvelle entre lui et nous. C'est en nous-mêmes que désormais nous voyons et que nous entendons le Christ, il est devenu notre moi le plus profond. Nous le percevons au travers des battements presque imperceptibles de notre cœur et lorsque une profonde paix intérieure baigne notre âme et esprit, alors cet espace intérieur abrite le Christ, c'est la perception de la paix. Nous ne voyons pas le Christ, d'accord, sous son aspect extérieur, mais nous le voyons avec les yeux de la foi en tant que paix, harmonie et unité. Cette paix est perceptible dans la lumière qui irradie de quelqu'un dans son comportement harmonieux, dans son visage rayonnant, dans ses paroles accordées à son être. Jésus comprend l'affliction des disciples, mais il nous dit que le chagrin se changera en joie. Il prend l'image de la femme qui, dans l'inquiétude, il est vrai, elle était inquiète, s'apprête à accoucher. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme, un bébé, soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, c'est ce que dit Jésus, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Saint Jean, chapitre 16, versets 21 et 22. Quand Jésus va au Père dans son ascension, nous renaissons, et oui, comment comprendre cette venue au monde en tant qu'être nouveau? Nous quittons notre ancienne identité, caractérisée par le succès ou l'échec, et par la reconnaissance des autres. Mais maintenant, notre être se définit par la présence en nous du Christ, de Jésus. Par lui, nous baignons dans la joie, une joie que nul ne peut nous ôter. Le Christ lui-même s'identifie non seulement à l'amour, mais aussi à la joie. Saint Jean chapitre 15, versets 10 et 11. En lui, nous découvrons cette joie enfouie au plus profond de nous-mêmes et dont nous n'avions pas conscience du tout. Les adieux de Jésus à ses disciples peuvent te rappeler les nombreux adieux que tu as faits au cours de ta vie. Tu as pris congé de ton enfance, de ta jeunesse, de périodes propices où l'on avait besoin de toi et où, dans la force de l'âge, tu occupais le centre du terrain. Tu as pris congé d'êtres chers, de lieux où tu as aimé vivre. Tout adieu fait très mal. Et j'en sais quelque chose. Mais chaque adieu crée aussi les conditions d'un nouveau départ. Pense à tout ce que tu devrais quitter. Qu'aimerais-tu abandonner afin qu'une vie nouvelle puisse s'épanouir en toi? Imagine dans ta promenade que tu laisses derrière chacun de tes pas des êtres, des lieux, des habitudes, des blessures, des déceptions pour aborder en pleine conscience de nouveaux territoires. Tu ne peux faire le deuil de ce que tu quittes que parce que tu te sais accompagné, tu te sais consolé par le ressuscité Jésus. Saint Luc décrit l'ascension de Jésus de façon brève mais prégnante. Levant les mains, il est béni et il advient comme il les bénissait qu'il, Jésus, se séparait d'eux et fut emporté au ciel. Saint Luc 24, versets 50 et 51. Dans l'ascension de Jésus, le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Les premiers chrétiens priaient les mains élevées en direction de Dieu. Quand j'élève les mains dans ma prière, je peux imaginer que le ciel au-dessus de moi s'ouvre. Profondément enraciné dans la terre, j'élève mes mains vers le ciel. Le ciel pénètre l'obscurité dans laquelle me maintient ma peur et atteint le fond terrestre de mon être. Quand je prie, le ciel ne s'ouvre pas seulement au-dessus de moi, mais aussi au-dessus des êtres que j'aime et au-dessus de tout ce qui m'entoure. Quand une foule est rassemblée pour prier, les mains levées vers le ciel, on peut imaginer que l'horizon s'ouvre pour tous ceux pour qui il était jusqu'alors bouché, qui n'avaient plus l'idée de Dieu et dont le regard ne s'élevait plus. On peut se dire que ces personnes-là sortent du tunnel. Jésus, dans l'évangile de saint Jean, déclare ceci. Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Je répète, Jésus, dans l'évangile de saint Jean, déclare ceci. Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Saint Jean, chapitre 3, verset 13. Célébrer l'ascension du Christ ne veut pas dire que nous fuyons cette terre et que nous l'abandonnons pour conquérir le ciel. Ce danger guette néanmoins les hommes trop pieux qui, fascinés par Dieu, préfèrent oublier tout ce qui est terrestre. Nous ne pouvons faire fi de notre côté terrestre, la pesanteur. Ce n'est que si nous assumons courageusement et pleinement notre humanité que le ciel pourra s'ouvrir au-dessus de nous. J'avais dit quand j'étais beaucoup plus jeune, avec mon humour parfois un peu bizarre, et je disais, je crois bien que j'aurai meilleur temps d'aller chez les carmélites. Vous avez compris que c'était pas de bon aloi. Mais voilà, quand on est jeune, on fait parfois des exclamations de ce genre. Oui, voyez-vous, seul celui qui descend sur terre, sur l'humus, est capable de monter au ciel. Saint Luc, dans son évangile, décrit comment le ciel s'ouvre au-dessus de Jésus quand celui-ci descend dans l'eau du Jourdain, dans les eaux troubles, charriant la faute de l'humanité entière, dans les eaux de l'inconscient, dans ce royaume de l'ombre dominé par les démons et par les puissances de ce monde. Notez Saint Luc chapitre 3, verset 21. C'est au moment où Jésus s'approche au plus près du tragique de l'humanité que le ciel s'ouvre au-dessus de lui. De la même façon, quand Jésus apeuré au mont des Oliviers, prie pour ne pas avoir à boire la coupe de la mort, alors que sa sueur se transforme en gouttes de sang qui irriguent le sol et qu'il se sent abandonné par ses disciples, le ciel s'ouvre et un ange en descend qui le réconforte. Notez Saint Luc chapitre 22 verset 41. Voyez-vous, quand nous sommes à bout, quand nous ne savons plus quoi faire, quand, en dépit de notre foi, nous sommes assaillis par le doute et la peur, le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Dieu nous envoie alors un ange qui nous console. L'ange fait le lien entre le ciel et la terre. Il fait descendre le ciel jusque dans nos peurs et dans notre détresse. Cher ami à l'écoute, as-tu déjà voulu fuir l'étroitesse de la terre? T'es-tu servi du ciel comme refuge face aux difficultés qui t'oppressaient? Ou bien as-tu fait l'expérience du ciel ouvert au-dessus de toi, quand tu avais peur? Que signifie pour toi ne pouvoir atteindre le ciel que en descendant sur terre? Refuses-tu de descendre au cœur de ton abîme intérieur? Médite les deux scènes du baptême de Jésus, Saint Luc chapitre 3 verset 21, et de la prière au mont des Oliviers, Saint Luc chapitre 22 verset 43. Peut-être alors le ciel s'ouvrira-t-il au-dessus de ton angoisse et de tes eaux troubles de ta vie personnelle. Chers amis, nous ne devons pas nous contenter de chercher le ciel au-dessus de nous. Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc décrit comment les disciples regardent le ciel fixement pour suivre l'ascension de Jésus. Et voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvaient à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Actes chapitre 1, verset 10 et 11. Les deux anges précisent aux disciples que Jésus reviendra, leur disant en substance, « Vous n'avez pas à regarder le ciel, à le suivre des yeux. » Vous devez le chercher là où il reviendra, dans votre propre cœur. Si tu cherches Dieu ailleurs, tu le manques à tous les coups. Le ciel n'est pas ailleurs que en nous, par l'Esprit Saint. C'est aussi la conception de Saint Luc qui est grecque. Il était grec. Il décrit Jésus comme le pèlerin divin descendu du ciel pour nous rappeler que nous sommes d'essence divine et que le royaume de Dieu est en nous par l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas seulement des êtres terrestres, mais nous appartenons aussi au ciel. Par Jésus, Dieu est venu jusqu'à nous. L'apôtre Luc, le disciple Luc, se souvient des récits mythiques grecs dans lesquels les dieux descendent parmi les hommes sous forme humaine. Dans un livre apocryphe officiellement non reconnu, il est dit du Seigneur qu'il a visité et qu'il a délivré son peuple grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu dans lequel nous a visité l'astre d'en haut. Oui, notez Saint Luc chapitre 1, versets 68 et 78. Jésus vient donc en pèlerin dans nos communautés, mais aussi dans notre cœur. Il vient pour nous prouver la miséricorde de Dieu et son amour pour les hommes. Origène, le grand théologien grec, l'a exprimé ainsi pour ceux qui sont très croyants. Tu es le ciel et tu iras au ciel. Nous sommes donc des hommes qui à la fois portent en eux le ciel et sont en chemin pour le ciel, moi pour bientôt. C'est donc là un message central de l'évangile de Saint Luc. Comme Jésus, nous sommes en pèlerinage entre terre et ciel. Augustin parle de cette expérience ainsi. En portant le Dieu du ciel en nous, nous sommes le ciel. Le ciel est déjà en nous, puisque Christ est en nous. En même temps, nous sommes en chemin vers le ciel, où nous pourrons voir le Christ dans toute sa gloire. À la question de savoir où se cache Dieu, Une légende hassidique répond ainsi. Dans le cœur de l'homme, Dieu habite le cœur humain, et là où Dieu habite est le ciel. C'est bel et bien vrai. D'or, donc, cet espace intérieur. Je répète, dans cet espace intérieur qui est en chacun de nous, c'est pour Dieu l'espace de l'amour délivré des troubles et des possessions, et surtout des passions de cette vie terrestre. C'est le lieu de Dieu dans lequel une lumière brille comme un saphir. C'est Jérusalem où l'on perçoit la paix. Là, nous sommes en accord avec nous-mêmes. Le Christ, oui, il est en nous par l'Esprit Saint. Voyez-vous, le chrétien du Moyen-Âge faisait ce rapprochement, la cellule et le ciel. Il ne voulait pas seulement désigner la cellule où le chrétien est seul face à Dieu, en dialogue avec lui. La cellule est aussi l'espace intérieur, celui du pur silence au cœur duquel Dieu habite. Cet espace est le ciel que le chrétien partage avec Dieu. C'est donc la chambre de malade de guérison. Quand dans la prière, nous retournons à cet espace intérieur, nous pouvons y guérir nos blessures et recouvrer des forces nouvelles. Dans cette cellule intérieure, la présence aimante de Dieu nous enveloppe et nous guérit. Pour terminer notre étude, cher ami à l'écoute, quand tu médites, utilise les images citées dans cette étude. Imagine que le ciel est en toi et que tu portes Dieu dans ton ciel intérieur. Ou bien encore, assieds-toi tranquillement dans ta chambre, cette chambre où tu passes tellement de temps, et observe autour de toi ce qui s'y trouve. Et imagine quel est le lieu où Dieu se tient auprès de toi, l'endroit où il voudrait dialoguer avec toi et guérir toutes tes blessures. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière et ensuite j'essayerai de vous mettre un ou deux chants d'un lointain passé, 1965, chanté par une chanteuse célèbre de ce temps-là, Mahalia Jackson, qui faisait partie de l'Église baptiste. Prions que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Dieu notre Père, ce que nous te demandons pour nous, c'est ce que ton apôtre te demandait pour les saints de Philippe, que notre charité augmente de plus en plus avec la connaissance et toutes sortes d'intelligence, afin que nous soyons purs et que nous marchions sans broncher jusqu'au jour de Jésus-Christ, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice qui servent à la gloire et à la louange de Dieu. Nous nous sentons si faibles et si indignes devant toi, qu'à peine pouvons-nous comprendre que nous puissions te glorifier. Mais glorifie-toi en nous, toi-même, Seigneur, en accomplissant ton œuvre dans nos cœurs. Dépouille-nous tellement de nous-mêmes que nous ne soyons plus par ta grâce que des instruments entre tes mains pour ta gloire et pour le bien de ceux auprès desquels tu nous appelles à vivre. Que nous puissions dire aussi que Christ est glorifié dans notre corps, soit par notre vie, soit par notre mort, et que nous soyons aussi pressés des deux côtés, désirant de quitter ce monde, non pas simplement pour nous soustraire à ses épreuves et à ses misères, mais pour être avec Christ, ce qui nous est beaucoup meilleur, et être prêts, cependant, à y demeurer ici, aussi longtemps que nous pourrons te servir et te glorifier. Accorde ces mêmes grâces, ô Seigneur, à tous ceux qui nous appartiennent. Pourvois à tous nos besoins selon tes richesses et avec gloire par Jésus-Christ et garde nos âmes dans ta paix et dans le sentiment de ton pardon pour l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants, j'ai dit, d'un très lointain passé. Évidemment, la qualité n'est pas la même qu'aujourd'hui. Vous comprendrez, car il n'existait pas de CD en ce temps-là. Évidemment.
Thank you. into God's loving heart.